C'est donc le rendez-vous jazz sur les antennes de CFM proposé par l'AJAR, l'association Jazz Animation Rouergue. Notre association a pour but de promouvoir le jazz par le biais de concerts, d'animations scolaires, de conférences et d'expositions, mais aussi de mettre en valeur les collections bibliographiques et discographiques de la ville de Villefranche-Rouergue. Il faut savoir que ces collections, cette collection patrimoniale, est la deuxième collection publique française sur le jazz, le blues et les musiques noires américaines. Il nous paraissait important de la partager.
Partager, c'est aussi s'adresser à des publics nouveaux. Et une des actions majeures de l'AJAR, c'est également de s'adresser donc au public scolaire, hein, des rendez-vous annuels au mois de novembre au théâtre municipal permettent de sensibiliser les enfants des écoles à différentes esthétiques jazz avec pour objectif de former le public de demain.
Et pour l'heure, nous souhaitons ouvrir les oreilles et le cœur de tous les publics. Bonne écoute.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour l'émission Passeurs de Jazz sur CFM Radio. Aujourd'hui, nous aurions pu faire une émission sur Solny Rollins, puisqu'il vient de nous quitter. Malheureusement, j'ai préparé une émission sur Stan Getz, donc je vais la faire, mais prochainement, c'est promis, je ferai une émission sur Solny Rollins. Donc, une émission spéciale sur Stan Getz aujourd'hui, le grand saxophoniste. On va commencer par écouter un premier morceau, El Caon, on en parlera plus tard.
Thank you.
Les spécialistes en matière de jazz ont souvent cette fâcheuse habitude de vouloir coller une étiquette à chaque musicien. Lorsqu'il s'agit de déterminer à quel courant appartient Louis Armstrong ou Charlie Parker, la tâche ne paraît pas à proprement parler ardue. Pour Thelonious Monk, en revanche, c'est déjà plus difficile, tout au moins guère évident. Et pour Tanguet, disons-le, c'est franchement impossible. Si l'on respecte la volonté du musicien qui refuse d'appartenir à une quelconque école, il serait en effet, sinon erroné, du moins imprécis, d'affirmer que Tanguet s'est inspiré uniquement de l'esthétique de Lester Young. Nous allons continuer en écoutant un nouveau morceau, I Can't Get Stand There. Thank you. Stan Getz est né le 2 février 1927 à Philadelphie, d'une famille d'origine juive. Au début des années 30, ses parents s'installent à New York, dans le Bronx, un district qui n'a pas grand-chose à voir avec Park Avenue. Dans le Bronx, où les bagarres de rue sont quotidiennes, Stan apprend très vite à se défendre. « Rien d'extraordinaire », déclarait-il à un journaliste de Downbeat en 1966. On attend le petit juif au coin d'une rue pour lui casser la gueule. C'est même chose pour les Noirs et pour toutes les minorités. Les deux choses capitales, en fait, sont l'amour et l'ouverture d'esprit. Ouverture envers les autres musiciens, envers soi-même, envers le monde qui nous entoure. On ne peut pas se conduire comme un cheval pourvu d'œillères. Il faut s'ouvrir à la vie, à la musique. Rapidement, le jeune garçon montre de réelles dispositions pour la musique. À l'école, il s'initie à la contrebasse, au basson, à l'harmonica, pour finalement opter pour le saxophone ténor. Pendant les vacances d'été, alors qu'il n'a que 15 ans, il entre dans l'orchestre de danse de Dick Stinky, Roger. Mais l'office de protection des mineurs le renvoie chez ses parents, séance tenante. L'année suivante, Stan renouvelle l'expérience. Cette fois avec le légendaire tromboniste Jack Teagarden, alors au fait de sa popularité. Séduit par la façon dont l'adolescent utilise le ténor, Teagarden propose et obtient de devenir son tuteur afin que Stan puisse demeurer dans l'orchestre. Écoutons-le maintenant dans Stella by Stanley. Thank you. En décembre 1945, le trombéniste Kay Winding, que Stan Getz a connu lors de son passage chez Keaton, monte un groupe avec le trompettiste Shorty Rogers et le batteur Shirley Main, tous deux futurs grands prêtres de ce qu'on va appeler bientôt le mouvement Waycast. Getz ne tardera pas à se joindre à eux. Les Kaiti Crazy Cat enregistreront plusieurs morceaux dans lesquels le saxophoniste commence à flirter avec le bop. Certains critiques allant jusqu'à voir une certaine ressemblance avec le ténor Georgie Ould, qui, au terme d'une longue carrière dans le middle jazz, paraissait toujours hésiter entre Lester Young et Charlie Parker. En juillet 1946, Stan Getz constitue enfin sa première formation, The Bebop Boys, avec le pianiste Hank John, le contrebassiste Curly Russell et le batteur Max Roach. Autrement dit, la prestigieuse section rythmique avec laquelle Charlie Parker a enregistré Now the Time et Coco, qui sont considérés comme les morceaux les plus parfaits du bop originel. Comme en témoignent les enregistrements pour Savoy et Opus the Bop, Stan Getz pratique à cette époque un bop pur et dur, ce que d'aucuns ont pu juger paradoxal dans la mesure où le mouvement de Parker et Gillespie convenait davantage. Dans son essence, au noir qu'au blanc, même s'il n'a jamais été caractérisé par la mise à l'écart de musiciens blancs, en réalité, Stan Getz a été séduit par la complexité du langage musical bop, mais aussi par l'attitude rebelle des hipsters dont Charlie Parker était incontestablement le leader. Écoutons-le dans Stan's Blues. Avant de continuer sur Stanguette, je vais vous parler des 40 ans de la Jarre. Pour fêter les 40 ans, la Jarre, l'association propose aux Villefranchois une soirée jazz musicale gratuite, le 4 juillet, place Notre-Dame, avec accueil du public à partir de 18h30. Le programme musical débutera à 19h, avec le Wonder Brass Band. Déambulation sur la place et passage sur la scène. Le Wonder Brass Quartet est né à Toulouse de la collaboration de musiciennes au parcours singulier, influencées dans leur pratique par des courants très variés, au travers d'un répertoire éclectique mêlant composition et arrangements originaux, aux influences jazz, funk et latine. Elle joue une musique ingénieuse, audacieuse, sensible et énergique. Le temps d'un concert, elle partage avec le public leur complicité et la dimension féminine du quartet, communiquée avec humour. À la suite, le Paris-Berlin Cabaret, avec les chanteuses et chanteurs du festival Opéra Bastide, qui se déroulera en juillet à Villefranche-de-Rouergue. Puis se produira le Antoine Delbos Quartet. Ces quatre musiciens reprendront des classiques du jazz. Et enfin, une jam session ouverte à tous et à tous. Un moment de partage musical convivial avec une participation libre. Le repas sera pris chez les restaurateurs locaux ou tiré du sac. Des tables et des chaises seront installées sur la place et la Jarre tiendra une buvette. On vous attend donc tous le 4 juillet, place Notre-Dame. Ça va être une très, très, très belle soirée. On va continuer avec Stanguette. Après avoir enregistré avec d'autres grands noms du jazz, comme Gigi Johnson, Dizzy Gillespie, Gary Milligan ou Chet Baker, Stanguette sera en Suède. Il y restera de 1958 au début des années 1961. Il se produit alors dans de nombreux clubs européens. À Stockholm, bien sûr, mais également au Montmartre Jazzhus de Copenhague ou au Blue Note à Paris. À son retour aux États-Unis, alors que Sonny Rollins et John Coltrane suscitent l'enthousiasme des fanatiques de jazz, on a oublié qui était vraiment Stanguette. Il lui faut en quelque sorte repartir à zéro. Grâce à Eddie Sauter, qui lui écrit les 7 titres de l'album Focus en 1961, Stanguette pense revenir au premier plan de la scène du jazz. Focus est un disque admirable. 10 violons, 4 altos, 2 violoncelles, une harpe, une contrebasse et Roy Wentz à la batterie. Interprète une musique profonde, d'une grande richesse, qui permet au saxophoniste ténor de se lancer dans des improvisations qui figurent parmi les plus intelligentes de sa carrière. Toutefois, comme Alain Gerbet le constate, malgré la valeur musicale de cet album, les dés sont jetés. La critique de jazz salua le disque comme une très grande réussite, mais il était déjà trop tard. Son signataire avait décidé, puisque le public de jazz le boudait, de se tourner vers une clientèle moins capricieuse, celle de la variété. Écoutons-le dans « I Don't About You ». Thank you. En 1969, Stan Getz s'installe à Marbella, au Brésil, tout en voyageant le plus souvent possible dans les capitales européennes. De retour aux États-Unis, il forme un nouveau quartet dans lequel se succéderont au piano Hank Jones, Johan Vrecken et Kenny Barron. En 1983, il participe à plusieurs concerts avec Chet Baker, qui seront enregistrés sur l'album magnifique Line for Lions. Enfin, en 1988, il entreprend une nouvelle tournée à travers le monde, qu'il doit interrompre pour des raisons de santé. Il reviendra au premier plan de la scène du jazz peu de temps après avec le pianiste Larry Willis et le batteur Lynne Carrington et le contrebassiste Anthony Cox. Ses dernières œuvres, sa collaboration avec Kenny Barron, ont maintenu Stan Getz dans une ligne classique, sereine et d'une constante qualité, qui lui permet ainsi de conserver sa réputation de ténor mythique. Un titre aujourd'hui qui, incontestablement, ne peut être partagé qu'avec l'autre grand sax ténor vivant, Dexter Gordon. Nous allons l'écouter dans un autre morceau qui se nomme « What is in the Calling Love ».